Radio J.
Bonjour à tous, merci d'écouter Radio J. Il est 10h et c'est l'heure d'un nouveau journal. Au 413e jour de guerre en Israël, il avait 19 ans. Le sergent Ron Epstein est mort au combat à Gaza. Il s'agit du 804e soldat de Tzal tué depuis le 7 octobre 2023. Originaire de Necher, Ron Epstein faisait partie de la brigade Givati. Il a été tué à Jabalia par des éclats d'obus. Deux autres soldats ont été légèrement blessés au cours de ce même combat. Et puis, au nord, hier, à Anaria, un civil israélien a été tué et plusieurs blessés suite au tir de roquettes du Hezbollah contre la Galilée. Le groupe chiite a lancé une quarantaine de roquettes vers le territoire israélien. Par ailleurs, une salve de 5 projectiles a été tirée vers Haïfa dans la nuit. Aucun dégât n'a été signalé. Toujours au nord, justement, les opérations de Tzal se poursuivent. Des ordres d'évacuation ont été émis dans les régions de Beyrouth et de Tyr au Liban ce matin. Les médias locaux ont fait état d'attaques dans les quartiers d'Aratarir et d'Aladat, dans la banlieue de la capitale libanaise. Hier, l'armée israélienne a mené une série de frappes à Dahiyeh dans la région. Un dépôt d'armes, des centres de commandement et d'autres infrastructures utilisées par le Hezbollah ont été détruites. Pendant ce temps, les négociations pour un cessez-le-feu au Liban se poursuivent. Des progrès ont été réalisés selon Amos Orstein, l'envoyé spécial américain au Moyen-Orient, actuellement en visite en Israël. C'est un jour noir pour la justice. C'est la réaction hier de Benjamin Netanyahou suite à la décision de la Cour pénale internationale contre lui. Hier, la CPI a émis des mandats d'arrêt contre le premier ministre israélien ainsi que son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant. Des mandats émis pour des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre selon la juridiction. Le chef du gouvernement israélien a dénoncé une décision politique et antisémite, tout comme l'ambassadeur d'Israël en France, Joshua Zarka.
C'est clairement anti-israélien. Nous sommes dans une situation dans laquelle nous avons été attaqués par une organisation terroriste génocidaire qui a pour but de tuer le plus possible d'Israéliens, le plus possible de Juifs. Et nous nous défendons de la meilleure façon que nous pouvons. Et dans cette défense, la Cour pénale internationale essaie de nous empêcher de nous défendre. Alors, mettre sur le même niveau un Premier ministre élu d'un pays démocratique et le chef de la branche armée d'une organisation terroriste génocidaire et qui le dit d'une façon très claire, qui veut tuer tous les Juifs qui sont en Israël ou à l'extérieur, est ridicule. Ça rend le droit international vraiment ridicule.
L'ambassadeur d'Israël en France, Joshua Zarka, au micro de nos confrères de France Info. Le chef de l'exécutif israélien ne pourra donc pas compter sur le soutien de la France, tout comme les Pays-Bas ou encore l'Italie et le Canada qui ont annoncé qu'ils appliqueraient ces mandats d'arrêt. La réaction ce matin de Patrick Haddad, maire de Sarcelles.
Tout cela montre que la communauté internationale souhaite l'arrêt des violences et que donc il faut un peu dézoomer, à mon avis, et se concentrer sur le fait que cette situation n'est pas tenable, qu'Israël a le droit de se défendre, évidemment, ou a le droit de garantir la souveraineté de son territoire, que pour autant la communauté internationale ne peut pas cautionner les dizaines de milliers de morts d'un côté comme de l'autre, et donc cette décision est assez logique de ce point de vue. Maintenant, il faut aussi réfléchir à la suite des événements, c'est-à-dire à la solution politique, à l'arrêt des violences, à la droit à la sécurité d'Israël, comme à la souveraineté et à la sécurité également des Palestiniens.
Le maire de Sarcelles, Patrick Haddad, sur Radio J. Israël bénéficie néanmoins de l'appui de plusieurs pays, dont les États-Unis. Nous serons toujours aux côtés d'Israël face aux menaces qui pèsent sur sa sécurité, a assuré hier soir le président américain Joe Biden, qui a jugé scandaleuse cette décision. Idem du côté du Royaume-Uni, qui affirme rejeter l'équivalence morale entre Israël et les groupes terroristes que sont le Hamas et le Hezbollah. L'Argentine, la République tchèque ou encore la Hongrie ont aussi manifesté leur soutien à l'État hébreu. La guerre en Ukraine à présent avec une nouvelle déclaration choc du président russe. Il n'exclut désormais plus de frapper les pays occidentaux alliés de Kiev. Lors d'une allocution télévisée hier soir, Vladimir Poutine a intensifié sa confrontation avec l'Occident, affirmant que toutes les forces russes avaient lancé un nouveau missile balistique de portée intermédiaire sur l'Ukraine en réponse à l'utilisation récente d'armes américaines et britanniques pour frapper plus en profondeur le territoire ukrainien. Le chef d'État a affirmé que la Russie avaient le droit de frapper les installations militaires des pays qui permettent que leurs armes soient utilisées contre les installations russes. Enfin, l'actualité en France, ils détenaient de nombreuses armes à feu. 3 hommes, dont 2 liés à l'ultra-droite, ont été arrêtés près de Lyon. Parmi eux, un père de 59 ans et son fils de 29 ans, membre du groupe Égalité et Réconciliation de l'antisémite Alain Soral, condamné à plusieurs reprises pour provocation à la haine. Les 3 hommes seront présentés aujourd'hui à la justice.
Radio J. 14h-15h. Le Grand Journal. Steve Nadjar.
Je vous donne rendez-vous tous les après-midi à 14h dans le Grand Journal. Une heure d'information et de décryptage en direct sur les sujets qui vous concernent. Le Grand Journal, 14h-15h. Et c'est seulement sur Radio J.
Radio J.
Avec la Tzedaka FSJU, unis plus que jamais.
Chaque année, grâce à votre générosité et votre engagement, plus de 20 000 familles bénéficient d'un soutien essentiel pour affronter les difficultés du quotidien. Cette année, plus que jamais, soyons unis, forts et solidaires autour du FSJU et de ses combats. Donnez sur tzedaka.fr.
Tzedaka.fr.
La Tzedaka FSJU, c'est un mois d'action pour aider, soigner et bâtir.
Participez à la plus grande campagne de solidarité et suivez-nous sur nos réseaux sociaux.
Avec les audioprothésistes Unison, retrouvez le plaisir d'entendre et sans vous ruiner. Jusqu'au 31 décembre, profitez des remises exceptionnelles. Et oui.
Et oui, jusqu'à 500 euros sur les appareillages auditifs les plus performants du marché.
Unison vous propose les appareils auditifs les moins chers de France, dans 14 centres dans toute la France, dont 5 à Paris et en Ile-de-France.
UNI2SON.com.
Unison.com.
Unison.com.
La vente des appareils auditifs est soumise à prescription médicale, préalable et obligatoire.
Radio J.
Radio J.
Le 10-11. Le 10-11. Liz Goodman.
Radio J.
Radio J.
Réponse sans tabou. Rafi Marciano.
Radio J. Radio J.
Bonjour à tous les auditeurs et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui pour cette nouvelle émission des Réponses sans tabou. Je voudrais rappeler à nos auditeurs que la philosophie de cette émission réside toujours dans l'idée de mettre en valeur les nombreuses associations qui ont pris des initiatives parfois méconnues du grand public et font souvent un travail remarquable. Mais notre ambition aussi, c'est d'encourager l'étude, le limoud, la découverte des textes fondamentaux du judaïsme en invitant des penseurs, des enseignants qui transmettent, non dans des termes yeshivatiques, mais dans un langage ouvert à la portée de tous et une pensée plurielle ouverte à tous les courants. Maurice Ruben Ayoun, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes professeur. Vous êtes né, je rappelle simplement pour les auditeurs, le 21 septembre 1950 à Agadir. Vous êtes un exégète, un philosophe. Vous avez publié de nombreux ouvrages sur Maïmonide et vous êtes le professeur d'université. Oui, et vous êtes en plus un germaniste reconnu. Alors, dans le cadre des enseignements qui sont assurés par des pédagogues, des maîtres, mais vous définissez vous comme un érudit qui transmet. Expliquez-nous cette nuance.
Écoutez, c'est un peu, ça fait un peu rire, mais ce n'est pas moi qui suis responsable, c'est la Vox Populi, et j'avoue, je ne l'ai pas démenti, parce que c'est comme ça que je vois mon travail. J'ai aligné un certain nombre de choses depuis que je travaille, c'est-à-dire j'ai presque un demi-siècle de recherche sur le judaïsme philosophique, sur la religion, dans ses rapports avec la philosophie, et tant de choses connexes. Et mon but à moi et de penser le judaïsme. Alors, ça peut paraître prétentieux, mais c'est ce que j'ai fait depuis un demi-siècle. Et j'espère, si la Providence le veut bien, continuer dans cette voie.
Alors, aujourd'hui...
Et comme érudit, je considère qu'il y a un certain nombre de textes fondamentaux de la culture juive qui n'ont pas encore été accessibles à cause de la difficulté de la langue.
Au grand public.
Au grand public, et puis surtout pour l'allemand. On ne se rend pas compte de ce qu'un texte de théologie ou de philosophie religieuse en allemand pour le traduire. Enfin, moi, je suis un spécialiste.
Vous êtes un germaniste.
Je suis un germaniste.
Mais vous comprenez cette réticence d'un grand nombre de juifs de reprendre la langue allemande.
Bien sûr, mais un philosophe ne raisonne pas avec ses tripes. Il raisonne avec son cerveau. Ça n'est pas toujours facile. Maïmonide...
Et vous avez un cerveau.
Il paraît. Et Maïmonide... Justement, nous a appris. Il y a une chose qu'il m'a apprise, entre autres, il m'en a appris beaucoup. Lorsque son frère est mort en noyade dans l'océan Pacifique, je crois, où il était parti faire des affaires commerciales. C'est la seule fois où j'ai senti Maïmonide ému quand il a évoqué la mémoire de son jeune frère disparu qui s'appelait David.
Qui le faisait vivre,
vous avez parfaitement. Ce qui fait que quand à sa mort, Maïmonide a dû prendre à sa charge une veuve, une orpheline, et puis rembourser
les dettes
et les pertes, puisqu'il n'y avait pas d'assurance tout risque à ce moment-là. Et par conséquent, ça a changé sa vie.
Alors, Maurice Ruben Aioun, aujourd'hui, on va commencer cette série de grands maîtres. Mm-hmm. Et on avait déjà étudié Maïmonide en long et en large. Là, aujourd'hui, nous allons poursuivre cette découverte des grands maîtres. Et nous avons, je vous rappelais que nous avions consacré la précédente émission au Rambam. Aujourd'hui, on va découvrir, en fixant le monde séfarade, Salomon Ben Yehuda et Ben Gavirol, né en 1020, décédé en 1050, très jeune.
Exact.
Son œuvre majeure demeure Mekorah Chaim. C'est grandiose.
Le fons vitae, c'est pour la source de vie pour ceux qui ne savent pas l'hébreu.
Alors, qui se cache derrière ce grand maître à l'époque médiévale qui a écrit tous ses poèmes en arabe?
Alors, voilà un homme qui probablement fait partie des cerveaux les plus ingénieux, les plus brillants et les plus forts de son temps. Et c'est un homme qui a été victime, si je puis dire, de son succès. Puisque, écrivant en arabe, il n'était pas à la portée de tous. Et au fil du temps, parce qu'il faut toujours se méfier du temps, et les juifs sont bien placés pour ça, il est tombé dans, si je puis dire, les poubelles de l'histoire. Et du coup, alors qu'il avait écrit le Fons Vitae, qui est un ouvrage de métaphysique absolument exceptionnel, alors qu'il avait écrit ce texte en langue arabe, ce texte a été perdu. Et quand on l'a retrouvé, on n'en a retrouvé que des feuillets égarés, des bribes. Et ce qui fait que, comme il était en langue arabe, les chrétiens ont considéré que c'était un penseur arabe. Or, au milieu du 19e siècle, le grand lettré Salomon Moon, qui était lui-même judéo-allemand, prouve que avant Sebrol ou Avin Sebrol et Ibn Gabirol, c'est une seule et même personne.
Personne. Alors on va revenir, c'est-à-dire qu'il est aussi, Ibn Gabirol, il est aussi celui qui a composé le poème liturgique le plus fervent du Keter Malchut, la couronne royale, pendant un millénaire, et je vous le rappelle, on a ignoré qui était l'auteur. Est-ce vrai que cet grand orientaliste Salomon Munk,
oui,
qui était membre du Collège de France, c'est lui qui va le découvrir, c'est une réalité, ça?
Absolument historique, et personne ne la remet en cause, puisqu'elle est publiée dans les mélanges de philosophie juive et arabe, qui est le premier...
Mais vous, dans vos recherches, je le confirme
absolument, et je remercie Salomon Munk. Je ne fais jamais un pas sans... Il y a des gens qui ne font pas un pas sans Rashi. Moi, je ne fais pas un pas sans les leaders de la science du judaïsme, et notamment, et des gens comme Salomon Munk. C'est un homme qui a quitté son village allemand à pied pour rejoindre Paris. Il a été encouragé par Goethe, et c'était quelqu'un pour qui la vraie religion, c'était la culture juive. Et il considérait que réintégrer toute la culture juive à la culture universelle, telle était sa mission, la mission de sa vie. Donc lorsqu'il nous l'a prouvé, personne ne l'a contesté.
Mais Salomon Munk, il était membre du Collège de France.
Il était professeur.
À l'apogée, la culture.
C'était le summum de la culture. Il était titulaire, comme Ernest Renan, de la chaire de philosophie, d'hébreu et d'araméen. Mais le problème, c'est que...
Mais comment il s'est intéressé à Ben Gavirol?
C'était un orientaliste. Et en plus, il était gardien des manuscrits hébreux à la Bibliothèque Nationale, là où j'ai passé une partie de ma vie, dans les manuscrits, le département des manuscrits. Donc il s'est demandé qui était ce Avi Sebrol ou Aven Sebrol, comme on disait Ibn Rushd et des gens comme ça. Et de recherche en recherche, il s'est rendu compte qu'il y avait des échos de sa pensée chez des auteurs juifs. Et du coup, quand il a identifié les citations qui venaient de textes juifs, il a compris que...
Il a fait le rapprochement.
Eh bien, exactement, il a compris.
Et le Keter Malchut.
Alors le Keter Malchut, c'est tout à fait différent, mais ça nous pose un problème, cher ami. C'est que comment cet homme, qui a écrit une œuvre de métaphysique absolument irreligieuse, je répète, il nomme Dieu dans cette recherche métaphysique, il le nomme l'essence première. Et les latinistes l'ont traduit par factor primus. Comment cet homme, qui n'a pas donné une seule indication dans ce Keter Malchut, a pu écrire un texte aussi religieux que nous lisons, que les Juifs lisent la veille de Kippour, qui est le sommet de la spiritualité juive. C'est pour ça que je parle parfois, dans ma barbe, si je puis dire, d'une schizophrénie philosophique. Comment pouvez-vous avoir fait un texte extrêmement philosophique, quasiment métaphysique, sans jamais divulguer vos propres croyances? Et dans l'autre texte, qui passe vers de l'autre bras, vous avez fait l'inverse. Vous n'utilisez plus le mot facteur premier, essence première. Vous utilisez Akadosh Baruch Hu, vous utilisez toutes les désignations du Dieu biblique dans la littérature juive et la communauté juive. Alors, à mon avis, dans ma thèse de doctorat, j'ai montré qu'il y avait une réunification de la pensée de cet homme grâce à l'interprétation allégorique à laquelle on l'a soumis. C'est-à-dire, on a cherché, dans mon livre, je parle de la transposition des thèmes philosophiques en thèmes religieux.
Alors, on va aller dans la dentelle. Maurice Ruben Ayoun, dans son œuvre métaphysique, Ibn Gavirol, il n'y a pas la moindre trace, je rejoins ce que vous dites, on ne trouve pas la moindre trace de ferveur religieuse, ce que j'appellerais, pas connaissance, mais de ferveur religieuse, aucune terminologie religieuse. Okay. Ibn Gavirol était-il un métaphysicien, un théologien? C'est un rabbin, c'est un poète.
Parce que
la première prière de Kippour qu'on a passée la semaine dernière, c'est l'Echa Teshukati, c'est Ibn Gavirol.
Absolument, l'Echa Eli Teshukati, l'Echa Teshmi, c'est un texte où, avec des milliers de mots, il chante la majesté de Dieu.
Mais cet homme-là, Maurice Ruben Ayoun, il n'avait pas un cerveau, il avait deux cerveaux.
Peut-être même trois. Parce que pour essayer de faire la jonction, de jeter une passerelle, c'est un jeu dangereux. Et pourtant, on est obligé de le faire. Parce que moi, je ne doute pas une seconde qu'il ait de sa sincérité. Et je pense que comme c'était un néoplatonicien au niveau philosophique, parce que n'oubliez pas, il est métaphysicien, philosophe, psychologue, linguiste, arabisant.
Mais comment se traduisait sa pratique religieuse?
Ah non, il était très religieux.
Oui, mais comment elle se traduisait? C'est-à-dire, c'est Shomer Mitzvot, bien sûr,
Shomer Mitzvot, bien entendu.
Mais comment est cette distance entre l'écrit intellectuel et sa pratique?
Probablement était-il un peu comme ce qu'allait devenir Maïmonide, c'est-à-dire lever un peu le pied sur la pédale de la religion pour pouvoir élargir le spectre philosophique et inclure cette même religion, mais une religion spiritualisée.
Non, mais Maïmonide, il n'a pas levé le pied, il a écrasé la pédale, parce que ce qu'a produit Maïmonide, c'est...
Je ne voulais pas vous attaquer, alors donc j'ai choisi un mot.
Non, je veux dire, attention, continuez, je vous ai interrompu.
Non, il n'y a pas de problème. Donc, si vous voulez, moi, j'y étais pas, comment il faisait la pratique religieuse, mais cette façon de parler de Dieu et de la Torah dans le Keter Malchut, prouve qu'il avait une observance parfaite.
Absolument.
Il avait une observance parfaite. Là-dessus, moi, je ne suis pas contre l'observance, absolument pas. Mais je veux dire, la question qu'il nous pose, cher ami, c'est comment est-ce qu'on peut faire les deux et être les deux? Par exemple, il s'est aussi occupé de psychologie. C'est lui qui a écrit le Sefer Tikkun Midot HaNefesh. C'est lui qui a écrit le livre...
Et puis,
il y a quelque chose qu'il faut absolument dire, c'est qu'il a marqué l'histoire de la philosophie, vous savez par quoi? Il a montré qu'il pouvait exister une substance spirituelle.
Mais c'est pas c'est
une
pas
matière
rien.
Spirituelle.
C'est pas pour rien qu'on ouvre les prières de Kippour par son poème à lui.
Oui, ça c'est, ben justement, ça nous rassure sur l'état de son observance. Mais je voulais dire que dans l'histoire de la philosophie, il a montré, mais il n'a pas été repris par les autres, il a montré qu'il pouvait y avoir une matière spirituelle. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire l'eau et le feu. Si vous êtes esprit, vous n'êtes pas matière.
Il arrivait à concilier les deux.
Lui, il est arrivé à concilier. Mais Albert le Grand et Thomas d'Aquin, mais ça prouve déjà qu'il le connaissait. Mais il le connaissait sous sa forme de philosophe métaphysicien arabe. Parce qu'il faut bien comprendre...
Mais
que...
c'est la même distanciation avec Maïmonide. Donc
mais c'est pour ça que je le dis. Oui. C'est absolument pour ça que je le dis. Il y a un problème. Finalement, avec le temps et l'âge, on peut se demander si ceux qui ont lancé une synthèse philosophico-religieuse avaient raison. Moi, j'y ai consacré ma vie. Mais peut-être que je me trompe, parce que cette manière de voir, comme on l'a vu la semaine dernière, quand on a tous lu dans les synagogues le Keter Malchut, on se rend compte de son attachement et de son abandon confiant à Dieu. Et ça, c'est quelque chose d'assez étonnant de la part d'un métaphysicien, parce que quand il passe du premier livre au deuxième livre, au troisième livre, où il démontre l'existence et la naissance de substances simples, c'est extrêmement difficile. Quand il dit que Dieu est un être d'existence nécessaire, ça veut dire qu'il n'a besoin de personne pour lui donner l'acte de naissance. Alors que nous, il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui ménage la forme et la matière, qui les marie. Et donc nous ne sommes pas des êtres d'existence nécessaire, mais des êtres d'existence possible, car nous dépendons de ce sujet ou de cet être qui réalise la combinaison de notre matière et de notre forme.
Alors, beaucoup d'entre nous vous doivent cette reconnaissance et cette gratitude de nous avoir mis à jour de grands maîtres qui n'étaient pas très connus ou connus d'un public
spécialisé.
Mais vous nous avez fait découvrir Rosenzweig, Ben Gavirol, Maïmoni, etc. On va prendre tout ça. Mais ça, c'est une manière de vous rendre hommage aussi à tout ce travail que vous avez mené depuis 60 ans.
C'est aimable à vous.
Ouais. Alors, un mot sur le caractère d'Ibn Gavirol, Maurice Rebenayoun. Il était de santé fragile, il était orphelin de père, et dès son jeune âge, il devenait dépendant des riches mécènes, dont il dépendait des subsides surtout. Qui lui permettait de vivre. Il était grand amateur de la poésie en arabe. Il est né, bon, on le sait.
Mais il avait un défaut, c'est...
Un seul.
Un seul, pratiquement, mais terrible. C'était une susceptibilité maladive.
Il n'était pas arrogant.
Il était le contraire. Il était soumis aux riches mécènes qui lui permettaient de vivre. Il a rédigé des poèmes à leur honneur, mais je me demande pourquoi il le faisait. Et par ailleurs...
Oui, parce qu'il passait sa vie à se plaindre de l'ingratitude de ses contemporains.
Exact. Parce qu'il trouvait qu'il n'avait pas obtenu de la société juive la place qui lui revenait de droit. Et je dois dire que c'était un...
Il était fatigué de cette reconnaissance sociale, il voulait une célébrité...
Ben oui. Il voulait mieux vivre.
Était posthume d'ailleurs.
Oui, ben la preuve c'est qu'on en parle un millénaire après. Mais lui, c'est pas ça qui faisait bouillir la marmite. Il fallait bien qu'il mange. J'ai déjà cité, je crois dans votre émission, cher Rafi, quelqu'un qui m'avait dit un jour quand j'étais jeune, Monsieur Ayoun, les cerveaux ont aussi un estomac.
Oui.
Il faut bien manger. Sinon, vous avez froid, vous avez faim, vous ne produisez aucune richesse intellectuelle.
Est-ce que vous diriez, Maurice Rebenayoun, qu'il était, derrière ces graves déconvenues, ça expliquait sa lassitude de son existence?
Oui, c'est exact. Vous savez, quelquefois, on est démoralisé quand la reconnaissance ne vient pas, quand les moyens font défaut.
C'est d'actualité, cette ingratitude de nos grands maîtres.
Ça a toujours été comme ça, et pas seulement chez les Juifs. Il y a chacun qui a son ego qu'il défend. Et celui qui parle n'en est pas exclu, bien sûr. On est tous soumis à ce genre de choses. Et c'est pourquoi, finalement, il faut, je crois, moi, ce que la Bible et ce que le judaïsme a appris en tant que philosophe, c'est la mesure.
Alors, on va revenir sur Ibn Gavirol, qui fut le seul dans l'histoire de la philosophie à parler d'une manière spirituelle. C'est ça, sa thèse était révolutionnaire. C'était un théologien catholique comme Albert le Grand qui l'a rejeté.
Exact, c'est-à-dire il n'y a pas de matière spirituelle. Mais alors lui, je ne veux pas trop rentrer dans les détails pour ne pas ennuyer nos auditeurs, mais je vais quand même expliquer que dans l'image que le monde médiéval se faisait de l'univers, il y a les sphères.
C'était le contexte de l'époque. Là.
C'est ça, il y a les sphères. Et quelle était la substance de ces sphères? D'ailleurs, il y a un chapitre d'Averroès qui s'appelle « De substantia orbis ».
Averroès qui était un philosophe arabe.
Voilà. Et c'était donc « De substantia orbis », ça veut dire de la substance des sphères. Et alors ces sphères ne pouvaient pas être de la même matière que notre matière à nous, ici-bas. Et donc lui a dit qu'il y avait une sphère qui était une matière qui était spirituelle, pour les sphères. Mais ça n'a pas été repris, comme vous l'avez souligné, par la tradition chrétienne, qui est quand même celle qui a redonné vie à Ibn Gebirol, mais dans un caractère latin. Notre collègue qui est mort depuis très longtemps, allemand, qui s'appelait Clemens Boehmker, a donné une édition critique de la version latine de ce texte de métaphysique, c'est-à-dire de Fons Vitae, et c'est grâce à ça qu'on a pu reconstituer. Mais le problème, c'est est-ce que les thèmes latins traduisent bien les thèmes juifs ? Ça, c'est une question qui se pose. Mais en tout cas, grâce à ce Clemens Boehmker, on a eu une version complète du Fons Vitae.
Et d'ailleurs, c'est des philosophes non juifs qui ont reconnu la place et le rôle exceptionnel d'Ibn Gebirol.
Vous avez tout
alors,
dit.
Donc, la différence d'approche, Maurice Ben Ayoun, est saisissante. Dieu lui-même disparaît de sa terminologie classique.
Exact. C'est pour ça que notre trouble est grand quand on voit la tradition juive est menée par des gens intelligents qui n'ont pas la vue basse. Pour qu'ils aient plaqué le Keter Malchut, la couronne royale, en tête du summum de la spiritualité d'Israël, c'est qu'il n'y avait pas le moindre doute à ce sujet.
Et c'est ça, une reconnaissance spirituelle d'Ibn Gebirol.
Absolument.
D'un grand maître.
Sinon, on ne lui aurait pas donné, vous vous rendez compte, on lui aurait pas donné la lecture de l'Echa Elit et Shukati.
En préalable.
Voilà, c'est-à-dire avant même de se poser à la synagogue, quand on ouvre le rituel de prière à Kippour, la première chanson que nous chantons tous ensemble, c'est le Keter Malchut, qui a d'ailleurs été traduit en français par un certain Paul Violeau. La traduction est bonne, mais ce qui est incroyable, cher ami, c'est la mobilisation de tant et tant d'expressions qui désignent cet homme qui figurait probablement parmi les hommes les plus intelligents et les plus novateurs de la figure juive de l'époque. C'est-à-dire, on est en plein Moyen-Âge, au XIIe siècle. Maïmonide n'est pas encore là, les kabbalistes ne sont pas... Et vous savez...
Est-ce que vous diriez,
juste encore une chose. Et on a même cru qu'il y avait des traces de la Kabbale, les traces d'Ibn Gebirol dans la Kabbale. Il y a un article de Gershom Scholem qui s'appelle « Aïk Votav chez Ibn Gebirol, Bakabala ».
Alors précisément, Maurice Ruben Ayoun, est-ce que vous diriez que Ibn Gebirol est tiraillé entre deux conceptions, comme le seront d'ailleurs deux siècles plus tard les kabbalistes? Il était contraint de choisir entre la fidélité au Dieu biblique de leur religion et l'attrait pour la divinité de leurs penseurs.
Oui, je crois que c'est
comment
très...
Comment vous expliquez ces...
Je crois que c'est très bien vu, on peut parler comme ça.
Il aimait le Dieu d'Israël, mais il était admiratif aussi de cette philosophie du monde non-juif.
Ah oui, ça c'est exact aussi, puisque ses sources ne pouvaient être que gréco-musulmanes ou gréco-arabes. Parce que quand il parle dans... Parce que le Fons Vitae se présente sous la forme d'un livre où il y a un disciple qui parle avec un maître. Et le livre 3, qui est le livre le plus essentiel, montre que pour lui, Dieu avait une substance éthérique. C'est-à-dire, il n'était pas le Dieu biblique auquel on donne des attributs humains, concrets. Il préférait quelque chose de beaucoup plus spirituel. Et c'est peut-être ça, c'est un auteur difficile. C'est un auteur difficile à suivre.
Oh oui, on a remarqué dans votre livre, c'est vos explications, c'est pas facile. Deviez résumer en un mot, on aura le temps, on va prendre beaucoup d'émissions pour travailler là-dessus. Si vous deviez résumer en un mot Ibn Gebirol, c'est parce que c'était un auteur de deux œuvres si étonnantes, si gênantes. On a le Keter Malchut, on a...
Le Fons Vitae.
C'est énorme.
Oui, c'est énorme. Et puis attendez, il a eu le temps de s'occuper d'un traité que mon ami le grand rabbin Gutmann a traduit récemment, qui est Sefer Tikkun Midot HaNefesh, qui est le livre de l'amélioration des qualités de l'âme. C'est-à-dire, c'était quelqu'un qui était profondément inclus, enfoncé, abîmé dans les structures de pensée, c'est-à-dire la psychologie. Et ça, c'est quand même une chose. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure d'entrée de jeu dans l'émission qu'il faisait partie des cerveaux, des esprits les plus fins de son temps et même de la philosophie juive. Il y a deux ou trois grands maîtres qui se sont intéressés à lui, mais c'est pas suffisant. C'est Fernand Brunner et puis Jacques Schlanger.
Et Maurice Ruben Ayoun.
Ouais, j'ai pas osé me citer moi-même. Mais si vous voulez, ce sont des gens qui ont possédé ce texte D'ailleurs, Schlanger, il a même traduit en français, ce titre, ce qui n'était pas à la portée de tout le monde.
Alors, on va se retrouver dans une prochaine émission, Maurice Rebenayoun. C'est très, très riche ce que vous nous expliquez. Malheureusement, le temps est imparti. Mais on va parler surtout aussi d'un auteur très méconnu, mais grandiose. C'était Franz Rosenzweig.
Oui, il est mort en 1929. Il a écrit L'étoile de la rédemption, qui est aussi un texte très beau, très difficile, mais très beau.
Alors, on en parlera à cette prochaine émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et à très bientôt.
À bientôt.
Vous écoutez Radio J.
Radio J.
Bonjour à tous, merci d'écouter Radio J. Il est 10h30 et je vous retrouve dans quelques instants pour le rappel des titres. Le rappel des titres, donc l'armée de l'air israélienne a émis des ordres d'évacuation à Darié dans la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah, ainsi qu'un tir dans le sud du Liban ce matin. Hier, plusieurs centres de commandement du groupe chiite ont été détruits près de la capitale libanaise. L'envoyé spécial américain au Moyen-Orient, Amos Hochstein, est toujours en Israël pour avancer sur une potentielle trêve entre l'État hébreu et le Hezbollah. Le groupe chiite assure que Jérusalem sera tenue pour responsable en cas d'échec des négociations, et ce, alors que le Liban a demandé des modifications à la proposition américaine. Joe Biden juge scandaleux les mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale contre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant. Il n'y a aucune équivalence entre Israël et le Hamas, a souligné le président américain dans un communiqué. La compagnie aérienne irlandaise Ryanair prolonge la suspension de ses vols vers Israël jusque fin mars. De son côté, la compagnie israélienne El Al rapporte des bénéfices records depuis le 7 octobre 2023. Des bénéfices en hausse de 260% depuis le début de la guerre. En France, environ 270 000 personnes sont toujours privées d'électricité en Normandie, Pays de la Loire et en Centre-Val de Loire en raison de la tempête hivernale Caetano. Tempête qui a provoqué des difficultés dans les transports et se décale désormais vers l'est du pays. Un total de 31 départements sont encore placés en vigilance orange, neige, verglas et vent, dont Paris, selon Météo France. Un mot à présent de la mobilisation agricole qui agite une partie de l'Hexagone depuis lundi. La coordination rurale, principal syndicat resté mobilisé sur le terrain, a annoncé qu'elle lèverait ce matin son blocage du port de commerce de Bordeaux. Le syndicat estime que le Premier ministre Michel Barnier a répondu à ses revendications sur les normes européennes. Enfin, la COP29 se poursuit et la journée sera longue à Bakou. Les négociateurs de près de 200 pays frustrés par deux semaines de tractations stériles attendent d'ultimes propositions de compromis financiers entre pays riches et pays en développement. Un nouveau round de pourparlers est attendu en vue d'un texte final dans la soirée.
Écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+ et sur notre appli Radio J.
Radio J avec la Tzedaka FSJU, unis plus que jamais.
Chaque année, grâce à votre générosité et votre engagement, plus de 20 000 familles bénéficient d'un soutien essentiel pour affronter les difficultés du quotidien. Cette année, plus que jamais, soyons unis, forts et solidaires autour du FSJU et de ses combats. Donnez sur tzedaka.fr.
Tzedaka.fr.
La Tzedaka FSJU, c'est un mois d'action pour aider, soigner et bâtir.
Participez à la plus grande campagne de solidarité et suivez-nous sur nos réseaux sociaux.
Montez le son.
Vous écoutez Radio J.
Radio J. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Journée s'annonce bien, vous écoutez Radio J.
Radio J. Radio J.
Radio J.
Le 10-11, le 10-11, Lise Goodman.
Radio J.
Radio J, Kabbalat Shabbat avec le Rav Mevorah Zerbib.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. En cette veille de Shabbat Chaye Sara, Shabbat où on a une paracha qui porte le nom d'une femme. Alors déjà, on n'a pas beaucoup de parachiotes qui portent le nom de personnages, mais on n'a qu'une seule paracha qui porte le nom d'une femme. Et quelle femme? Sara. Toutefois, c'est une paracha, on ne parle pas vraiment de Sara. Eh oui, le titre c'est Chaye Sara, la vie de Sara, mais ça ne nous parle pas du tout de la vie de Sara. Ça nous parle de la disparition de Sara et de son enterrement. Alors, ça donne à réfléchir. Et en fait, on peut se poser la question pour savoir qui va être le personnage central, clé de cette paracha. Alors, Sara, c'est son nom qui a donné le nom de la paracha, mais on parle de sa disparition, on parle pratiquement pas d'elle. Abraham, alors oui, il parle de la négociation avec les Bénéchet et notamment avec Éphron pour faire l'acquisition de Marat Amarpella, le caveau qui va devenir le caveau des patriarches à Hébron. Alors c'est quelque chose d'important, mais c'est pas lui qui fait l'essentiel de toute la paracha. Et puis il décède aussi dans cette paracha. C'est pas le plus actif. En plus de ça, il y a un principe que le Rav Kook avait développé, qui est que il y a un principe de zugiyut à parachiot, la notion des parachiotes qui vont deux par deux. Un des deux premières parachiotes de la Torah, Bereshit et Noir, c'est le début de l'humanité. Ça concerne tout l'ensemble de l'humanité. Alors que Lech Lecha et Vayera sont deux parachiotes qui nous parlent d'Abraham. Donc Lech Lecha Vayera, c'est Abraham. Une en potentiel, une en réalisation des choses. Et on va voir Chaye Sara et Toldot qui seront les parachiotes de Yitzhak. Le mariage de Yitzhak est dans la paracha Chaye Sara, et puis la vie de Yitzhak quelque part dans la paracha Toldot. Donc Chaye Sara, ce serait plus une paracha à Yitzhak, alors que Vayitzé et Vayishlar seront les parachiotes de Yaakov. Enfin, donc d'après ce principe où les parachiotes vont deux par deux, Chaye Sara, ce serait la paracha de Yitzhak. Mais là encore, au début, il est complètement absent. D'ailleurs, c'est surprenant qu'il est complètement absent de l'enterrement de sa mère. Eh oui, on nous parle, il y a Avraham dispose de Sarah Velivkota, qu'Avraham est venu pour pleurer Sarah et faire l'oraison funèbre. Et il est où Yitzhak? Yitzhak n'est pas du tout mentionné. Comme il n'est pas du tout mentionné au moment de l'envoi du messager pour chercher une femme. C'est Abraham qui se soucie de la question. Ce n'est que au retour, où c'est très intéressant, c'est Abraham qui envoie le messager, mais celui qui le reçoit, c'est pas Abraham. Au retour du messager, eh bien, c'est Yitzhak qui est, c'est lui qui se marie. Mais là encore, on n'a pas le personnage principal, on pourrait dire. Le personnage principal de la paracha, c'est l'émissaire, l'envoyé que j'ai évoqué comme ça rapidement, dont le nom n'est pas dévoilé dans le texte de la Torah. C'est grâce au Midrash que Rashi ramène qu'on sait que c'est Eliezer. Et je voulais mettre l'accent sur ce personnage, parce que vous allez me dire, Eliezer, mais il est marqué dans la paracha? Non. Mais non, c'est vrai que quand on a l'habitude d'étudier cette paracha, on a l'habitude de parler de Eliezer comme cet homme qui était envoyé par Abraham. Mais dans la paracha, on l'appelle le serviteur d'Abraham, le doyen Zekan Beto, le doyen de la maison. On parle de Eved, l'esclave, le serviteur. Et puis des fois, il est appelé Haish. 10 fois l'homme, et puis par 3 fois il dit Eved Avraham, il vient s'annoncer. Donc, mais à aucun endroit on ne cite son nom. D'ailleurs, le nom d'Eliezer n'est marqué en qualité de Eliezer serviteur d'Abraham qu'une seule fois dans tout le Chumash. Eh oui, la deuxième fois il est marqué Eliezer, c'est quand on parle du fils du deuxième fils de Moshe. Le fils de Moshe s'appelle aussi Eliezer. Ah bon, on en reparlera de cet aspect-là, mais revenons à Eliezer. Eliezer qui est mandaté pour chercher une femme pour le fils de son maître, pour Yitzhak. Mais Eliezer lui-même a une fille. Et quelque part, il dit à Abraham, peut-être que on pourrait trouver un chidour pour ma fille et ton fils. Après tout, Eliezer est toujours proche d'Abraham, et c'est un personnage clé. Et là, Abraham va lui dire quelque chose de terrible, terrible. Il va lui dire, je suis désolé, on ne peut pas faire de mariage entre nos enfants, car toi tu es maudit et moi je suis béni. Quoi ? Toi tu es maudit et moi je suis béni. Alors, quelle était la malédiction qu'avait Eliezer ? Peut-être la malédiction que Ham avait reçue de Noach quand Ham avait vu la nudité de son père et qui s'était moqué quelque part. Quand Noach est reparti s'est réveillé de son vin, il a maudit la descendance de Ham, et donc, et d'ailleurs on a dit qu'il a maudit Kenaan, donc fils de Ham, et on dit que certains disent que Kenaan, c'est Eliezer. Et donc, comme il a été maudit, il peut pas, sa fille ne peut pas prétendre à se marier avec Yitzhak, fils d'Abraham, qui lui a été béni par Dieu. Mais là, attendez, il y a quelque chose quand même qui est surprenant et j'irais bouleversant. Quelle gifle a reçu Eliezer par son maître, Abraham, habituellement, qui est certainement le plus sympathique de tous les patriarches, l'homme de la générosité, de l'ouverture, l'homme qui, la semaine dernière, recevait des étrangers. Et là, il dit à son fidèle serviteur, Ben Meshek Beti, ou Dan Meshek Eliezer, quand c'est le seul endroit où il y a marqué le mot Eliezer dans tout le Chumash, comme en qualité du serviteur d'Abraham, il est l'intendant, celui qui a toute la confiance d'Abraham. Et là, douche froide quelque part, le jour où il dit peut-être que ma fille peut prétendre à se marier avec ton fils, il dit non, toi t'es maudit. Et là, on aurait pu être tenté de penser que Eliezer change son attitude de fidélité vis-à-vis d'Abraham. Et c'est pas du tout le cas. Bien au contraire. Eliezer va faire sa mission avec beaucoup d'une façon très consciencieuse, avec beaucoup de zèle. Et il va réaliser qu'en fait, il a une mission. Sa mission, bien, il faut la faire. Et on a ici un enseignement fort de la mission. On nous dit que c'est très intéressant ce point, parce qu'on nous dit que la terre se dit Eretz. Pourquoi on appelle la terre Eretz en hébreu? Parce qu'on nous dit qu'elle court, Eretz, Rutz, Ratzta, elle court pour faire la volonté de son créateur. La terre fait la volonté de son créateur. Très bien. Et pourquoi les cieux ne le font pas? Shamaïm. Alors Shamaïm, c'est là-bas, il y a de l'eau, Shamaïm. On va dire que le ciel est quelque part plus proche de Dieu. Et quand on est plus proche de Dieu, eh bien c'est plus facile de faire la volonté de Dieu. Par contre, quand on est éloigné, comme la terre qui est symbole de la matérialité, Artsiout, qui est un petit peu de distance vis-à-vis de Dieu, eh bien malgré cela, elle va courir pour faire la volonté de Dieu. Alors là, il y a quelque chose qui est remarquable. Et c'est ici peut-être un enseignement fort, et si je voulais mettre en exergue Eliezer dans cette première partie de notre petite émission, eh bien c'est pour mettre l'accent sur l'importance de la mission. Une mission, c'est fort. Et c'est fondamental. Chacun a une mission dans sa vie. Dans notre paracha, Eliezer a la mission d'aller chercher la femme du fils de son maître, la femme pour Yitzhak. Et il va avoir donc ce souci de réaliser ce qu'il faut. Et il va la prendre de la terre. D'ailleurs, on va nous dire que la terre, il va avoir kaftsa lo haaretz. On va nous dire que quand il est parti, la terre a sauté. Elle a sauté puisqu'il y a eu Kfitsata Derer, une sorte d'accélération de son voyage où il est. Mais on nous dit la terre a sauté quelque part pour nous montrer que il était dans le même esprit de la terre qui court, lui qui courait pour réaliser la volonté de son maître. Et là, c'est une grande leçon d'éthique, de morale, faire comme la terre, à courir pour faire sa mission, pour réaliser sa mission. Et c'est comme ça qu'on comprendra que Korach qui, quelque part, regardait un peu trop dans l'assiette de l'autre. C'est-à-dire que Korach était jaloux de la place que Aaron pouvait avoir. Et Korach, donc, n'était pas bien dans sa mission, et il voulait faire la mission de quelqu'un d'autre. Et bien, il a été englouti par la terre. Quelque part, on comprend qu'il a été englouti par la terre parce que, justement, il a eu le comportement contraire de la terre, et c'est pour ça qu'il était englouti. Alors, sachons nous comporter comme Eliezer, que malgré peut-être les déceptions, et de savoir qu'on a une mission à réaliser. Et cette mission à réaliser, elle est fondamentale. Quand on s'intéresse un peu plus à ce fameux Eliezer, qui est quand même un personnage principal dans cette paracha, Eliezer, donc, qui est mentionné une seule fois dans tout le livre de Bereshit, en qualité de serviteur d'Abraham, chapitre 15, verset 2, ou Ben Meshek, Bessi, ou Damesek Eliezer. On a une deuxième fois écrit Eliezer dans l'Exode, dans paracha Titro, chapitre 18, verset 4, mais là-bas il s'agit du fils de Moshe. On va revenir sur ces deux personnages, mais juste pour vous dire aussi, à part ça, il y a 12 autres fois dans la Bible où on mentionne le nom d'Eliezer, mais dans ces 12 autres fois, on nous parle notamment d'un prophète. Un prophète qui s'appelle Eliezer, et qui est cité dans le livre d'Ezra, dans les Divrei Hayamim, le livre des Chroniques. Mais qui est Eliezer? Alors il y a une opinion d'après le Pirkei des Rabbis Eliezer, justement. Tiens, un enseignement très intéressant, au chapitre 16. Enseignement qui se recoupe avec ce qu'on trouve dans Maseret Sofrim, au chapitre 21, alinéa 9. Qu'Eliezer, son autre nom, c'est Og. Alors Og, on a... on le connaît comme le roi qui a été tué par Moshe. Alors peut-être que Og, c'est pas le nom seulement d'une personne, mais c'est le nom des rois du Bashan, avec le premier Og qui est ce Og dont on va voir d'où il vient, mais que il pourra être comme il y a les Paro, les pharaons, il y a plusieurs pharaons qui sont suivis, ou les Avimélères, les rois de Guérar, qui s'appelaient tous Avimélères. Il peut y avoir des plusieurs, comme on a les Louis en France, Louis de 14, Louis 13, etc. Eh bien, on peut retrouver. Alors, Og, d'après le traité Zvachim, page 113b, c'est un des seuls, ou le seul en dehors de la Teva, en dehors de l'Arche de Noé, qui a survécu au Maboul, au déluge. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Certains vont dire qu'il s'est accroché à l'arche de Noé, qui était très fort, et il a réussi comme ça miraculeusement à être sauvé. Une autre opinion va nous dire qu'en fait il s'était enfui en terre d'Israël, et en Israël le déluge n'a pas submergé la terre d'Israël. Alors on dit que les habitants de la terre d'Israël sont morts à cause de la chaleur, de toutes sortes de choses, pas de l'eau. Mais comme Og était très fort, eh bien il a survécu. Alors certains nous disent que c'était un dernier des Néphilim, de ces géants qui étaient depuis l'époque antédiluvienne. D'après le Pirkei des Rabbis Eliezer, au chapitre 23, Og était en fait un esclave de Noé. Et Et d'après Rachi, quand on lui dit qu'il va voir les villes de Sodome et Gomorre qui vont être attaquées par les rois, les fameux quatre rois, ils vont prendre en captivité Lot, eh bien, on dit, il va y avoir Palit, le fugitif est arrivé. On dit, c'est qui le fugitif? C'est Og, c'est ce que dit Rachi. Tiens, on le retrouve encore là. Certains vont lui dire que Nimrod a fait cadeau Og, ou Eliezer, maintenant on peut parler d'Eliezer, à Abraham comme cadeau. Alors soit parce que c'est son serviteur, soit parce que c'était son fils. Et alors ce serait intéressant parce que Nimrod, le roi, le grand dictateur de l'époque, a préféré que son fils soit serviteur chez Abraham, comme Paro, comme Pharaon avait donné Hagar, sa fille. Et oui, avant Mithia, il y a la fille de Pharaon, qui était Hagar, qui va être servante chez Abraham. D'après le Dan Zekin Mibelatosfot, donc il va dire que donc quand on a pour lui parler de Og, il y a plusieurs Og, et donc il y a un Eliezer en tout cas. Et c'est pour ça que d'après Bereshit Rabba, dans Midrash Rabba au chapitre 60, alinéa 7, on dit que Eliezer était le serviteur, c'était en fait Kenaan, qui avait reçu la fameuse malédiction, d'où l'impossibilité pour lui que sa fille se marie avec Abraham. Mais il faut savoir qu'Eliezer était quand même un personnage hors du commun. D'après la Maseret d'Ereres Zouta, puis on a d'autres références, on nous parle de certains personnages qui sont rentrés vivants dans le Gan Eden. Alors, parmi ces personnes qui sont rentrées vivantes dans le Gan Eden, eh bien, il y a Eliezer. Vous allez me dire, c'est qui les autres? Eh bien, vous avez Hanor, qui était l'arrière-grand-père de Noé, Hanor, le père de Methusalem, mais père de Methuselah. Donc c'est Hanor, c'était la septième génération depuis Adam et on y veille nous. Et il n'était plus puisque Dieu l'avait pris pour ne pas qu'il risque de fauter à l'âge de 365 ans. Alors, il est parti. Le plus connu de ceux qui sont partis comme ça dans le Gan Eden, c'est Eliyahu Navi, qui est parti sur un char de feu. Moins connu, c'est Hiram, le roi de Tsour. C'est Yabetz, le fils de Rabbi Yehuda Hanassi. Et puis, c'est aussi Bithya, la fille de Pharaon. Serach, la fille d'Asher, celle qui était la détentrice du code secret de la délivrance. Et puis Rabbi Yehoshua ben Lévi aussi était un personnage qui est rentré. Alors il y a plusieurs versions qui sont rentrées donc comme ça dans le Gan Eden. Alors c'est vrai que il y a des versions pour savoir est-ce que Eliezer était. C'est que Flavius Joseph dit par exemple que Avraham a été roi pendant un temps de Damas. Et c'est là où il a fait Damas avec Eliezer, il a fait la connaissance d'Eliezer. Alors, ce qu'il fait, il a pris comme esclave. Certains vont dire que oui, il l'a acheté comme esclave quand il a fait la guerre. Ad Rova, Cher, Missemol et Damasek, quand il avait poursuivi les fameux quatre rois qui avaient fait la guerre contre les rois de Sodome, etc. Mais d'après nos Chachamim, Eliezer, sa valeur numérique, c'était 318, ses valeurs 318. Et quand on lui dit qu'Abraham est parti pour faire la guerre contre les fameux quatre rois, il avait pris avec lui ses 318 guerriers. Et on dit si c'est 318, eh bien c'est en fait Eliezer. Quoi qu'on pourrait dire, en fait, il y avait peut-être 318 guerriers qui étaient prêts à partir, et que peut-être Abraham a fait la sélection qu'il y avait avant toutes les guerres qu'il va avoir pour Israël. Il va dire celui qui a peur qui rentre chez lui, celui qui s'est marié qui rentre chez lui, celui qui a planté une vigne qui rentre chez lui, celui qui a construit une maison qui rentre chez lui. Et puis, eh ben, 318 sont partis, ou 317 peut-être, ceux qui avaient le yéhouch, le désespoir, valeur numérique 317, et il est resté que Eliezer, dont la valeur numérique est 318, et c'est allé au-delà de tous les espoirs. Alors, Eliezer, c'est le nom du fils de Moshe, parce que Moshe avait entendu dans le ciel que Dieu avait dit, mon fils Eliezer, en parlant de Rabbi Eliezer ben Hourkanous, Rabbi Eliezer ben Hourkanous, qui avait commencé à étudier à l'âge de 28 ans et qui était la réincarnation de Ruben. Alors il aurait dû mourir en martyr, mais finalement non, parce que Ruben c'est l'homme de la Teshuvah et donc il n'avait pas participé à la vente de son frère. Alors il y a encore beaucoup de choses, juste que Rabbi Eliezer c'était l'élève de Rabban Yochanan ben Zakkai. Mais on va continuer notre réflexion sur la paracha tout à l'heure à 15h05, 15h07. Pour l'heure, je vous souhaite Shabbat Shalom, Guit Shabbos. Shabbat Shalom Umevorach.
Radio J, le commentaire de la Haftara, présenté par Franklin Ruski, doyen de l'Institut universitaire d'études juives Elie Wiesel, et auteur du livre Le complexe de Samson, paru aux éditions Hermann. Aujourd'hui, nous allons évoquer Shabbat Vaislar.
En effet, une nouvelle fois, nous avons affaire au prophète Hoshéa, les premiers des 12 petits prophètes. Et nous lirons le Shabbat qui vient une prophétie de Hoshéa qui passe en revue les moments clés de l'histoire du peuple d'Israël. Histoire qui commence comme l'histoire d'une famille, la famille de Jacob, installée en Mésopotamie. Puis, Jacob et les siens reviennent en terre de Canaan. Plus tard, cette famille devient un clan. Et plus tard, le clan devient une nation qui émigre en Égypte, connaît l'esclavage, retrouve la liberté et revient dans la terre promise, instaurant le régime monarchique. Mais ce peuple, à la longue histoire, ne reste pas fidèle aux valeurs éthiques du monothéisme hébraïque. Le peuple adore Baal, Astarté, Kemosh, Dagon, ces idoles des nations voisines. Le peuple fabrique des statues de métal et s'incline avec superstition devant les images des divinités païennes. Hoshéa avertit sévèrement le peuple infidèle qui subit des catastrophes et qui s'interroge sur la cause de ses malheurs. Or, Israël n'est pas une victime innocente, n'est pas une victime pure. C'est une nation fautive. Shiretra Israël. Tu t'es détruit toi-même, Israël. Alors le salut, d'où viendra-t-il? Et les prophètes annoncent la promesse divine. Kibi de Esrachecha, car c'est en moi qui réside ton futur secours. Hoshéa aime profondément son peuple. Ces discriminations ne sont pas l'expression d'une hostilité à l'égard de ses compatriotes. Il montrait à Israël le chemin qui le conduira au bonheur et à la liberté. Il faut renoncer à l'illusion idolâtrique, revenir avec pleine conscience à la voie de l'alliance éternelle pour mériter la continuation du destin, de la mission et de l'histoire d'Israël. Shabbat shalom.
Shabbat shalom, Franklin Roski.
Le Forum Radio J. Retrouvez tous les dimanches à 14h10 le Forum Radio J, l'émission politique historique de Frédéric Aziza.
Ce dimanche, je recevrai le maire socialiste de Saint-Ouen, Karim Bouamran.
Le Forum Radio J de Frédéric Aziza, c'est tous les dimanches à 14h10, uniquement sur Radio J.
Radio J. Avec les audioprothésistes Unisson, retrouvez le plaisir d'entendre et sans vous ruiner. Jusqu'au 31 décembre, profitez des remises exceptionnelles. Et oui.
Et oui, jusqu'à 500€ sur les appareillages auditifs les plus performants du marché.
Unisson vous propose les appareils auditifs les moins chers de France. Dans 14 centres dans toute la France, dont 5 à Paris et en Ile-de-France.
UNISON.com.
Unisson.com.
Unisson.com.
La vente des appareils auditifs est soumise à prescription médicale, préalable et obligatoire. Ça, c'est uniquement sur Radio J.
Radio J. Radio J.
Radio J.
Radio J. Le 10-11.
Radio J.
Liz Goodman.
Merci à toutes et à tous d'avoir été fidèles au 10-11 de Radio J. À 11h sur radioj.fr.